À quelques jours de l'Halloween, peut-être que vous avez décoré votre domicile, préparé des bonbons, votre costume, mais faut pas oublier, dans tous ces préparatifs-là, il faut veiller, puis ça, on dirait que j'y avais jamais pensé, à la sécurité de tous, ça oui, mais ça commence chez vous, dans le but d'éviter, c'est ça, ce à quoi j'avais jamais pensé, d'engager notre responsabilité civile extra-contractuelle. Oui, on a des responsabilités par rapport à ces festivités d'Halloween, puis on en parle avec Catriane Hamel, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Catriane, bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec une définition pour bien comprendre, mais on dirait que j'avais jamais pensé avec l'Halloween, là. C'est quoi la responsabilité civile extra-contractuelle?
Donc, la responsabilité civile extra-contractuelle, c'est lorsqu'on engage notre responsabilité à la suite d'un fait juridique, donc un événement qui va entraîner des effets juridiques non recherchés. La responsabilité civile extra-contractuelle arrive lorsqu'il n'y a pas de contrat entre la victime et l'auteur du fait. Par exemple, je suis en train de décorer pour l'Halloween et mon échelle tombe sur la tête d'une personne, on va l'appeler Angela, et elle a tombé parce que je ne l'avais pas sécurisée.
Okay.
Angela, elle, subit une commotion cérébrale et est incapable de travailler à la suite de l'incident. Je pourrais être tenue responsable du préjudice qu'Angela a subi. J'engage donc ma responsabilité civile. Le fait juridique est mon échelle qui tombe sur la tête d'Angela, puis il va créer un effet juridique non recherché, soit l'engagement de ma responsabilité civile. Je peux donc être poursuivie pour réparer le préjudice en dommages subi par Angela.
OK.
Pour être poursuivi en justice dans un dossier de responsabilité civile extra-contractuelle, ça prend trois composantes, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice de la victime. Donc, si une de ces composantes-là est manquante, en fait, on ne pourra pas avoir une action en justice. Dans l'exemple précédent, la faute est mon omission de sécuriser l'échelle, le préjudice est la commotion cérébrale d'Angela et son incapacité à travailler. Le lien de causalité sera son préjudice né par mon omission.
OK.
La responsabilité civile extra-contractuelle s'applique seulement quand les deux parties ne sont pas liées d'un contrat, donc c'est vraiment important. Puis on va retrouver les dispositions relatives à la responsabilité civile dans le Code civil du Québec aux articles 14, 57 et suivants. Donc le Code civil du Québec est accessible sur le site web de Légis Québec ou à une bibliothèque municipale et ce, gratuitement.
Puis comment est-ce qu'on engage notre responsabilité civile?
Donc, la responsabilité civile est engagée par une faute d'action ou une omission de la part de quelqu'un. La faute d'action pourrait être celle qui est de lancer une balle sur quelqu'un et de lui casser le nez. La faute d'omission est une faute qui est causée par une conduite que n'aurait pas eu une personne raisonnable. Donc, un exemple d'omission pourrait être de ne pas identifier un fil foncé qui traverse ma cour et que le soir de l'Halloween, une personne trébuche dans ce fil et se casse une cheville.
OK.
Ce n'est pas nécessaire que la faute soit intentionnelle. Donc, elle peut être commise par de la négligence et on engagera tout de même notre responsabilité civile. Il faut un lien de causalité entre la faute ou l'omission et le fait juridique. Ce qui signifie que si le préjudice n'est pas causé par la faute ou l'omission d'une personne, la responsabilité civile de celle-ci ne sera pas engagée. Donc, par exemple, on reprend Angela qui a décoré pour l'Halloween. Sa cour est sécuritaire, elle est bien éclairée. Un enfant arrive, il trébuche, mais il trébuche en s'entremêlant les jambes et il se casse le poignet dans sa cour.
Donc, il s'est pas enfargé dans rien.
Entre
là.
La chute.
C'est ça, il s'est pas enfargé dans rien, là, c'est dans ses propres pieds à lui. Là.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la chute et la cour d'Angela. Donc, elle n'a pas, elle, engagé sa responsabilité comme elle a vraiment agi comme une personne diligente et raisonnable.
OK.
Puis, dans la plupart des cas, la victime va devoir prouver que la faute de l'auteur lui crée un préjudice. Donc, cependant, dans certaines situations, la faute sera présumée et l'auteur va devoir avoir une défense appropriée pour excuser sa faute. Donc, comme j'ai mentionné, pour pouvoir avoir une action en justice, la victime va devoir prouver les trois composantes. Donc, c'est vraiment la clé de la responsabilité civile, la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Bon, Catriane, tu parles de la faute. Là. Qu'est-ce que c'est une faute, là, si on définit ça comme il faut?
Une faute, c'est un manquement à un devoir ou une violation d'une norme de bonne conduite. Donc, elle se mesure à une personne raisonnable. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, ça serait un peu comme se dire, est-ce qu'une personne diligente et raisonnable a réagi de la sorte? Cette personne-là, c'est vraiment comme un modèle pour mesurer s'il va y avoir une faute ou non. La personne diligente et raisonnable, c'est elle qui prend les précautions et qui agit de façon raisonnable dans une même situation. Le préjudice, lui, peut prendre trois formes aussi. Donc, soit un préjudice corporel, moral ou matériel, bien que les préjudices peuvent être plusieurs en même temps de différents types. Donc, le préjudice corporel pourrait être une blessure sur notre corps. Le préjudice moral est celui où on vit de la souffrance, de la douleur ou encore du stress. C'est vraiment par rapport à comment est-ce qu'on se sent. Et le préjudice matériel est celui lié à un bris de biens, par exemple.
Puis là, est-ce que nos décorations d'Halloween là, peuvent engager notre responsabilité civile?
Oui, ça pourrait. Donc, les décorations d'Halloween peuvent engager la responsabilité civile. Il faut toujours garder en tête qu'il faut que ce soit sécuritaire, mais surtout de repenser à la personne diligente et raisonnable, qu'est-ce qu'elle ferait.
Okay.
Donc, on a parlé d'un fil mal identifié ou même non identifié, où une personne est arrivée et a trébuché dans ce fil-là. Ça pourrait être une décoration en hauteur qui est mal attachée, qui tombe sur la tête de quelqu'un aussi, qui engage une responsabilité civile. Ce sont des fautes d'omission, mais ça pourrait être aussi une faute d'action où une décoration animée blesse quelqu'un. Donc, par exemple, Angela, elle organise une maison hantée, puis elle se cache sous une table et moi, je me présente à la maison hantée, je passe et elle me tire le pied. Et dû à cet instant-là, je tombe et je me casse le nez ainsi que quelques dents. Angela pourrait être responsable par sa faute, comme oui, j'avais accepté les risques de la maison hantée, donc peut-être que j'allais mal voir, mais je n'avais pas nécessairement attendu, je m'étais pas attendue à ce qu'on me tire le pied.
Bon, ben, nous, on a une radio hantée là, jeudi soir. Là, soyez assurés, on ne vous attrapera pas les pieds. Vous allez peut-être avoir peur,
bon.
Mais on ne vous attrapera pas les pieds.
Donc, on pourrait aussi engager notre responsabilité par la ruine d'un bâtiment. Donc, par exemple, un balcon qui pourrit, puis qui n'est pas réparé, une personne va aller sur le balcon, considérant qu'un balcon supporte le poids d'une personne. Si le balcon cède, que la personne tombe et se blesse, on peut être tenu responsable en tant que propriétaire du bâtiment. Donc, la ruine est due au manque d'entretien du propriétaire.
OK. Puis, est-ce qu'on pourrait engager notre responsabilité civile par les bonbons, mettons, là, qu'on continue dans l'exemple de l'Halloween?
Ça pourrait être possible, mais chaque situation est évaluée au cas par cas. Donc, si par exemple, une personne a une réaction allergique par des bonbons que quelqu'un a servi, ça n'engagera pas nécessairement la responsabilité de la personne. Mais on doit quand même être diligent et raisonnable dans la situation. Donc, par exemple, on voit ces dernières années des situations où des aiguilles ou des substances intoxicantes se mélangent aux bonbons. Donc, d'un côté, ça pourrait être des procédures criminelles. On pourrait choisir d'intenter aussi un recours civil si on remplit, encore une fois, les trois composantes, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Donc, il faudrait vraiment nécessairement que quelqu'un subisse un préjudice dans cet incident pour qu'on puisse intenter une action.
Puis là, est-ce qu'il y a d'autres risques d'engager sa responsabilité civile dans le cadre là, de la fête de l'Halloween cette semaine?
Il y aurait plusieurs façons de le faire, mais j'aimerais vraiment aborder la responsabilité du fait des animaux. Donc, plusieurs personnes vont venir cogner à la porte le 31 en soirée, en fait. Puis, si vous avez des animaux à la maison, il se peut que ces animaux-là veulent aller voir les visiteurs et les accueillir. Donc, ce sont des aides sociales, mais ça se peut aussi qu'un accident survienne et que les propriétaires et ou la personne qui a l'animal en sa possession, donc pas nécessairement la personne qui possède l'animal, soit trouvée responsable de ce dernier. Donc, pour les animaux, c'est particulier. On va parler d'une présomption de responsabilité sans faute. Donc, cette présomption-là fait en sorte qu'au moment que l'animal cause un préjudice par son action, automatiquement, il va y avoir une faute de la part du propriétaire ou de la personne qui a usage de l'animal.
Okay.
Donc, c'est vraiment au moment du préjudice. Donc, ce qui signifie que le propriétaire ou la personne qui a usage de l'animal est responsable et qu'une action en justice peut être intentée contre lui. Donc, puisque c'est automatique, il va y avoir trois façons à la place que la victime prouve en fait la faute. À ce moment-là, ça va être en fait le propriétaire ou la personne qui a usage qui va devoir s'exonérer, donc soit prouver qu'il n'est pas tenu de responsable. Donc, il va y avoir trois moyens de défense pour le faire. Donc, soit que la personne va pouvoir s'exonérer en prouvant que c'est la faute personnelle de la victime, donc que l'animal a attaqué la victime parce que la victime l'a provoqué.
OK.
Par exemple, donc ça pourrait être aussi une deuxième façon, le propriétaire, il va pouvoir s'exonérer en prouvant la force majeure. Donc, par exemple, un cheval est effrayé par le bruit d'un train qui passe non loin, puis le cheval prend la fuite, puis il détruit la clôture d'un voisin sur son chemin. Ça pourrait être une façon de s'exonérer par la force majeure. Mm-hmm. Et finalement, un propriétaire peut s'exonérer en prouvant l'acte d'un tiers. Donc, par exemple, un tiers marche sur la queue d'un chat et le chat griffe la personne qui est devant lui. Eh bien, dans ces cas-là, ça peut être aussi une exonération.
OK.
Donc, si le propriétaire ou la personne qui a l'usage de l'animal est incapable de prouver un de ces différents moyens, il est présumé responsable du fait de l'animal. Donc, bien entendu, il faut que ce soit de l'action de l'animal, ce qui signifie que si on reprend Angela, elle trébuche dans un animal qui dort et qu'elle se blesse, ce ne sera pas du fait de l'animal, comme l'animal n'a pas bougé. C'est vraiment Angela qui a posé l'action et qui s'est blessée elle-même en trébuchant.
Mais malgré tout ça, on invite les gens à être, à faire des actes sécuritaires, à être prudents jeudi. Des fois, c'est justement pas toujours bien éclairé. Nos costumes sont un peu longs. On fait attention puis on s'amuse jeudi soir. C'est un peu ça aussi.
Exactement.
À travers tout ça. Catriane Hamel, étudiante en droit au Centre de justice de proximité l'Outaouais. Merci pour ça. Puis si les gens ont des questions sur ça ou d'autres sujets, ils peuvent communiquer avec vous au CJPO. À bientôt, Catriane.
Merci, à bientôt. Joyeux Halloween.